Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec toute notre équipe en direct en ce 11 novembre des studios de la rue Bayard avec Justine Vigneault et Laure Broulard qui m'aident chaque jour à préparer ces émissions. Aujourd'hui c'est André Facetta qui est aux manettes techniques de notre émission et à la une c'est cette question insidieuse puis insistante qui court encore 10 ans après le décès de Yasser Arafat, mort naturelle ou assassinat. On va en parler dans quelques instants avec mon invité, le journaliste Emmanuel Faux. Mais d'abord, on fait un saut de 10 ans en arrière. Nous sommes donc le 11 novembre 2004. Le journal est présenté par Marie Guerrier.
La mort de Yasser Arafat annoncée officiellement ce matin depuis Ramallah en Cisjordanie. C'est le secrétaire de la présidence palestinienne qui a fait cette annonce et information confirmée par le médecin en chef de l'hôpital militaire de Percy à Clamart. Yasser Arafat y était hospitalisé depuis le 29 octobre. Son décès a été constaté à 3h30 cette nuit. Le président de l'autorité palestinienne avait 75 ans. Son coma s'était aggravé dans la nuit de lundi à mardi. Une délégation de dirigeants palestiniens avait pu lui rendre visite dans la journée de mardi. Les funérailles devraient avoir lieu demain, vendredi, au Caire, en Égypte, où seront accueillies les délégations étrangères. L'inhumation est ensuite prévue à la Moukata, le quartier général où Yasser Arafat a vécu, confiné ces 3 dernières années, dans la ville de Ramallah, à une 20 kilomètres au nord de Jérusalem.
Quelques instants après l'annonce donc de ce décès, Xavier Yvon, le correspondant d'RTL au Moyen-Orient, est à Gaza en direct. Gaza où la population a envahi les rues de la ville.
C'est au son des tirs d'armes automatiques que les habitants de Gaza se sont réveillés ce matin. Les mosquées ont très vite pris le relais, récitant les sourates du Coran en mémoire de Yasser Arafat. Les rues de Gaza sont en ce moment assombries par d'énormes fumées noires. En fait, ce sont les incendies de pneus à chaque carrefour. Il y a même des rues bloquées par ces incendies. C'est la manière qu'ont les habitants de Gaza de manifester leur tristesse. Et c'est assez impressionnant, on dirait presque que le jour se recouche tellement la fumée envahit la ville. Et par petits groupes, les Gazaouis commencent à se rassembler. Les enfants ne sont pas allés à l'école, on les voit traîner dans les rues autour des pneus en feu. Soufiane, par exemple, avec son écharpe aux couleurs du kéfier traditionnel de Yasser Arafat, exprime sa tristesse. Ce sera une journée très triste, tragique. On sera triste jusqu'au bout de notre vie. Le jour de la réalisation du rêve de Yasser Arafat, qui est de libérer Jérusalem, ce jour-là marquera la fin de notre tristesse. Le président disait toujours, nous lèverons le drapeau sur l'esplanade des mosquées et sur les murs de Jérusalem. Oui, et le plus grand rassemblement en ce moment a lieu devant le Parlement palestinien au centre de Gaza, sous un énorme poster de Yasser Arafat. Des dizaines, des centaines de Palestiniens commencent à se rassembler. Les voitures arrivent, on sort des posters de Yasser Arafat, des coffres des voitures, des posters divers et variés, Arafat de tous les portraits, tous les portraits d'Arafat que l'on connaît. Et les gens commencent à les coller sur leurs voitures. On sort également les drapeaux aux couleurs du Fatah, le parti de Yasser Arafat, et aux couleurs de la Palestine. On les colle aux voitures et les voitures commencent à faire le tour de la ville. Radio ouverte, les radios passent des chansons, des vieilles chansons à la gloire de Yasser Arafat. Et tout le monde ici promet une très très grande journée de deuil.
Bonjour Emmanuel Faux.
Bonjour Jacques Pradel.
Vous publiez aux éditions L'Archipel l'affaire Arafat, l'étrange mort du leader palestinien. Ce qu'on vient d'entendre a dû vous ramener à vos propres souvenirs parce que à cette époque-là, dans ce créneau 2003-2007, vous êtes correspondant pour Europe 1 au passage à Jérusalem.
Absolument.
Donc vous avez vécu vous aussi les conséquences de l'annonce du décès d'Arafat sur place.
J'ai vécu la montée de l'inquiétude d'abord des Palestiniens quand on apprend qu'il est pris de douleurs, de vomissements, de diarrhée au soir du 12 octobre, cette maladie qu'on n'arrive pas très bien à identifier et qui va s'aggraver de jour en jour, et puis on arrive à la fin de ce mois d'octobre où se pose la question de son transfert pour être soigné dans des hôpitaux occidentaux par des grands médecins, et se pose la question d'une éventuelle hospitalisation en France avec le feu vert du gouvernement israélien qui finalement lui donne cet accord.
Voilà, le feu vert de Jacques Chirac.
Et le feu vert de Jacques Chirac qui l'accueille volontiers à l'hôpital Percy de Clamart.
Ouais. Alors, revenons parce que la question évidemment qui sous-tend tout votre livre et l'enquête que vous avez menée, c'est pour répondre à cette question. Mort naturelle ou empoisonnement? Alors on sait les dégâts que peut faire la théorie du complot, mais là c'est quand même une supposition qui est étayée par un certain nombre d'arguments hein, qu'on va passer en revue ensemble. Et puis il y a l'irruption dans cette affaire du fameux polonium-210 à cause de Litvinenko, mais ça, je sais que vous avez des choses à dire là-dessus, sur cette hypothèse-là. Mais d'abord, pour comprendre pourquoi très très vite des rumeurs d'empoisonnement ont couru, il faut revenir au fait que la maladie de Yasser Arafat a été mais fulgurante. Vous parliez du 12 octobre.
Il meurt en 30 jours.
Il meurt en 30 jours. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un homme qui est donc enfermé à la Moukata. Il peut pas se déplacer. Les Israéliens ont décidé qu'il était assigné à résidence.
Voilà, absolument. Depuis plusieurs années. Depuis deux ans et demi. Donc pas libre de ses mouvements, bien entendu. Ne sortant jamais de son quartier général. Voyant même son espace vital se restreindre. Puisque les Israéliens, à un moment, vont attaquer une partie des bâtiments de la Moukata et détruire un pont passerelle qui lui servait un peu de promenoir, donc sa superficie même se réduit, vous voyez, son espace vital et son oxygène se raréfient. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a cette maladie qui paraît soudaine.
Parce que oui, il est
comme un homme de 75 ans.
Il a vécu des choses que vous rappelez.
Il a vécu des choses,
notamment un accident d'avion terrible sur lequel on reviendra peut-être.
Absolument, en 92.
Donc il n'est pas en parfaite santé, mais il n'est pas malade.
Non, puis surtout c'est quelqu'un, on s'en souvient peut-être pas, mais qui s'entretient, qui fait attention à ce qu'il mange, qui fait attention à et qui ne boit pas d'alcool, bien entendu. Donc qui est quand même dans une situation où il fait très attention à sa santé. Et là, si vous voulez, on y reviendra, j'imagine, tout à l'heure en développant les choses, mais le tableau clinique de ces 30 jours d'agonie qui vont se terminer donc le 11 novembre au matin à l'hôpital Percy montre vraiment un homme qui est précipité dans les ténèbres de la mort et dont le déclin est accéléré par un élément extérieur, toxine, poison, évidemment, la question est posée.
Et tout commence donc quelques heures après le repas du soir du 12 octobre.
Le soir du 12 octobre, où Yasser Arafat a mangé relativement légèrement, comme il le fait souvent le soir, notamment dans cette période de confinement, quand il est seul, quelques fruits, des légumes, une soupe, des laitages, et tout d'un coup, en fin de soirée, au moment de la digestion du repas, il est pris de terribles douleurs, de vomissements, et ce scénario va se reproduire et s'aggraver presque tous les jours, jusqu'au 28-29 octobre, date de son transfert vers la France, et de son hospitalisation à Clamart.
Voilà, et on va découvrir ensemble dans un instant, on va faire une pause tout de suite, on va se retrouver tout de suite après. Ces rumeurs d'empoisonnement ont continué à circuler, on va dire, dans le milieu des proches de Yasser Arafat, pas tous d'accord d'ailleurs, mais il y a, on va y revenir aussi, cette étrangeté dans le dossier médical que vous publiez dans votre livre. Les médecins n'arrivent pas à dire la cause exacte de la mort de cet homme. Donc ça alimente les rumeurs. Mais on va découvrir ensemble que, en fait, il n'y a pas d'affaire Arafat avant la diffusion d'un certain documentaire d'un journaliste d'Al Jazeera. On va en parler
plus de 7 ans après.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Yasser Arafat, mort ou naturel ou assassinat, c'est la question qu'essaye d'explorer et d'éclairer par un certain nombre de réponses. Mon invité est le journaliste Emmanuel Faux. Il vient de publier aux éditions de l'Archipel un livre qui est absolument passionnant parce que c'est vraiment le résultat d'une enquête très très fouillée avec énormément de rencontres de proches d'Arafat, de médecins, d'acteurs, on va dire, de ce dossier. Le livre s'intitule « L'affaire Arafat, l'étrange mort du leader palestinien ». Il faut dire qu'en ce 11 novembre, donc 10 ans après sa mort, il y a actuellement des cérémonies qui se déroulent en Cisjordanie, pas dans la bande de Gaza, parce qu'il y a une recrudescence de tensions.
Et le Hamas a dit qu'il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité,
donc pas de cérémonie. Donc les cérémonies ont été annulées dans la bande de Gaza. Ouais. C'est vrai que 10 ans après, les Palestiniens pensent encore, on va dire, à Arafat, qui est une sorte d'icône, quoi, on peut dire ça.
Oui, d'ailleurs, les Palestiniens de Gaza éprouvent une certaine frustration aujourd'hui à ce qu'il n'y ait pas de cérémonie. Certains disent, on nous a volé notre anniversaire.
Alors là, on va écouter un autre document RTL qui est très proche de la mort d'Arafat. C'est le 17 novembre, donc 6 jours plus tard. Et ces fameuses rumeurs d'empoisonnement dont on parlait tout à l'heure continuent à circuler, bien que on ait appris, mais ça on va y revenir, sur ce qui s'est passé pendant l'hospitalisation, bien que les gouvernements français dément très vite l'hypothèse de l'empoisonnement en se basant sur les déclarations des médecins français, mais en Palestine, on est persuadé que cette mort n'est pas accidentelle. Et on va entendre Xavier Yvon, donc le correspondant d'RTL dans la région, qui a pu constater l'existence de ces rumeurs, notamment à Jérusalem-Est.
Après le deuil officiel et la fête de fin de Ramadan, la plupart des boutiques n'ont rouvert que ce matin dans la rue Salah ed-Din, l'artère commerçante de la Jérusalem arabe. Entre clients et vendeurs, les rumeurs et les supputations vont bon train sur les causes de la mort de Yasser Arafat. Dans son agence de voyage, Naïm est convaincu que le raïs a été empoisonné. Le débat ne porte que sur la manière dont il l'a été, et selon Naïm, ce n'est pas par la nourriture. Je pense qu'il a été empoisonné par une sorte de gaz envoyé par un photographe. Vous savez, quand vous prenez une photo, il y a un flash. Quand il l'a pris en photo, c'est sorti du flash, c'est allé jusque dans sa respiration et c'est entré tout simplement comme ça, dans son corps. Évidemment, on montre du doigt les Israéliens. C'est toute une théorie du complot que développe Oaz derrière le comptoir de son magasin d'électronique. Les Israéliens ont un passé pour ce genre de choses. Ils l'ont déjà fait avant. Israël veut donner un coup de main à certaines personnes pour qu'elles prennent le pouvoir. Ils y travaillent. Il y a une grande conspiration qui se trame ici. Mahmoud Abbas était quelque part en Jordanie et d'un coup il est revenu, il a dit au revoir à Arafat et soudainement il était le chef. Certaines personnes, vous savez, trouvent cela bizarre. Plus loin dans la rue, une boutique de musique vend des CD de chansons à la gloire de Yasser Arafat. Empoisonnement ou non, les Palestiniens font le constat de leur impuissance. Ils n'auraient de toute façon pas les moyens, disent-ils, de venger la mort de leur chef historique.
Alors, Emmanuel Faux, il faut revenir sur la période d'hospitalisation, donc entre le 29 octobre et le 11 novembre, où on constate son décès, donc de Yasser Arafat. C'est un personnage important qui a rang de chef d'État. J'imagine que les médecins veulent pas se rater, quoi.
Absolument, et vraiment, on peut dire que tout est tenté pour à la fois essayer de, bien sûr, de le maintenir en vie et de le guérir, et pour vérifier toutes les hypothèses que l'on peut imaginer. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur le moment même, les médecins de Percy font des examens, y compris de radioactivité possible. Donc certains...
Qui s'avèrent négatifs.
Qui s'avèrent négatifs. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sorte de nomenclature, de tableau officiel des poisons qui est répertorié par la Gendarmerie nationale, et qui à l'époque, en 2004, n'inclut pas le fameux polonium 210 et d'autres poisons. D'accord. Et si vous voyez, c'est comme ça qu'on a eu dans l'histoire des tas d'affaires d'empoisonnement non élucidées, parce qu'à l'époque où on fait le test, si le poison est inconnu ou s'il n'est connu que de son inventeur, qui est le seul à détenir l'antidote, on n'est pas en mesure d'aller plus loin. On n'est pas en mesure de détecter l'empoisonnement.
Oui, mais on connaît les conséquences physiques, physiologiques d'un empoisonnement. Donc, j'imagine que les médecins regardent, il perd pas ses cheveux.
C'est ça. Alors, ils excluent effectivement, a priori, la radioactivité à très haute dose, mais certains médecins vous l'expliquent et me l'expliquent encore aujourd'hui, je le reproduis dans le livre, on peut imaginer une combinaison d'un produit radioactif avec autre chose qui ne produit pas les symptômes à 100% de la radioactivité, notamment dans le cas du polonium, c'était la perte des cheveux, vous le disiez, et la réduction de la moelle osseuse qui produit les globules blancs.
Voilà, et donc ce sont des signes qu'on n'a pas constaté chez Yasser Arafat. Mais alors, maintenant, autre question. Vous avez rencontré des médecins qui ont traité Arafat à l'hôpital Percy.
Ouais.
Comment se fait-il que, en fait, quand on lit bien les comptes rendus médicaux, personne ne peut dire voilà de quoi est mort cet homme.
Parce que les médecins, si vous voulez, sont en mesure de diagnostiquer la raison finale de son décès, qui est l'hémorragie cérébrale.
Oui.
Mais il y a cette fameuse phrase que, très franchement, je vais vous lire telle quelle, parce qu'elle est tellement complexe qu'il faut, la lire, mais que chaque mot compte, qui est mise dans le rapport final. La consultation d'un grand nombre d'experts de spécialités multiples et les résultats des examens réalisés n'ont pas permis de retenir un cadre nosologique expliquant l'association des syndromes. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure d'identifier des causes parcellaires, des causes séparées, mais qu'ils ne sont pas des causes constitutives de la mort à elles seules. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même dans le diagnostic qui est fait à l'époque et dans le rapport médical qui est rédigé quelques jours plus tard, rendu public le 18 novembre, on parle d'une défaillance polyviscérale avec atteinte hématologique et rénale. Et ça, je l'ai fait relire, notamment
c'est
par les trois grands médecins.
Quoi. En fait.
C'est de la description, mais qui veut dire que là, on ne peut pas avoir affaire au cas d'une mort naturelle, justement, cette expression-là. Et donc, cette expression-là, si vous voulez, est passée totalement inaperçue dans le jugement de l'époque, quand les médecins ont dit « on ne sait pas », on s'est contenté du « on ne sait pas ». Et les autorités françaises, je pense qu'on y viendra, à l'époque, n'ont pas poussé à la roue pour des investigations plus grandes. La famille d'Arafat et la veuve Arafat, Soua, n'a pas demandé d'autopsie, c'était à la famille de le faire. L'autorité palestinienne n'a pas voulu aller au-delà de ce que les autorités françaises préconisaient. Et donc, on en restera à ce flou, à ce silence qui va durer, vous le disiez, plus de 7 ans.
Alors, juste d'un mot, avec quand même une petite anticipation sur la suite de l'histoire, qui va faire partie de ces paramètres qui rajoutent du mystère. Le dossier médical qui va être remis à la veuve de Yasser Arafat est un dossier incomplet.
Absolument. Elle demande ce dossier plusieurs années plus tard, il faut le reconnaître. Mais nous sommes, je crois, en 2009, 5 ou 6 ans après la mort de son mari. Il lui a répondu sur papier en tête de la République française, de façon très officielle. Madame, il y a un certain nombre d'échantillons ou d'analyses, notamment d'urine et sanguine, qui ont été détruites. Et elle fait part quand même de son étonnement en disant « Vous avez détruit des analyses d'un chef d'État qui est venu mourir sur le sol français, et très légitimement, et avec les avocats qu'elle commence à contacter, il y a un étonnement comment la France a pu faire ça. » Et l'explication qui est donnée, qui m'est rappelée encore par le juge Gazot aujourd'hui, chargé officiellement
d'enquête. Vous avez rencontré, c'était l'un des trois juges
à Nanterre, que j'ai pu interroger alors qu'il est en cours d'instruction. Donc j'ai vraiment un peu le privilège d'avoir ces déclarations avant qu'il ne conclue l'instruction début 2015. Le juge Gazot lui-même me dit, mais il y a une explication toute simple. C'est que comme aucune procédure judiciaire n'a été lancée, comme aucune autopsie n'a été demandée, eh bien, légitimement, on pouvait considérer que ces analyses et ces échantillons n'avaient plus de raison d'être. Bon, c'est l'explication qui est donnée par la France.
Voilà, en tout cas, la question est posée, mais la réponse, c'est sa réponse. Alors, on va faire une pause. On va retrouver Emmanuel Faux dans un instant. On va faire un bond dans le temps, en avant, puisque, on le disait tout à l'heure, en fait, l'affaire Arafat, elle va démarrer. Non pas, comme je l'ai dit, avec la diffusion du documentaire de ce journaliste d'Al Jazeera, mais un an plus tôt, parce que pour réaliser ce documentaire, il fallait que ce journaliste contacte la veuve de Yasser Arafat pour lui demander des objets personnels, des objets, des vêtements de Yasser Arafat. C'est à partir de ces éléments que des analyses ont été faites en Suisse. Et on vous raconte ça dans un instant, oui.
Et il fallait, Jacques, que la veuve accepte de faire expertiser ses objets et ses vêtements que jusqu'à présent elle n'avait pas confiés à quiconque.
Alors voilà, vous saurez tout dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire Arafat, c'est le titre du livre de mon invité, le journaliste Emmanuel Faux, qui vient de paraître aux éditions L'Archipel. On revient à son enquête et à son éclairage et à ses explications dans un instant. Mais d'abord, un nouveau document qu'on a trouvé dans les archives de la rédaction d'RTL, qui date de ce document du 29 août 2012. Dans un instant, on va remonter à l'année précédente. Mais 29 août 2012, pourquoi ? Parce qu'on est donc 8 ans après la mort d'Arafat, et 8 ans après, sa veuve, Soua Arafat, demande officiellement à la France l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et Jean-Alphonse Richard fait le point donc sur l'antenne, sur les différents éléments troublants, on va dire, qui ont mené à l'ouverture de cette information judiciaire.
Une enquête qui s'annonce éminemment sensible. Avant d'être recevable, la plainte a d'ailleurs transité, selon nos informations, par le parquet général de Paris, la chancellerie et même le Quai d'Orsay. Une plainte de seulement 10 pages, mais aux annexes médicales troublantes. Tout d'abord, les constatations faites à l'hôpital militaire Percy en novembre 2004. Le décès s'apparente à un accident physiologique atypique, mais les causes restent inconnues. Autres annexes, les conclusions du très sérieux Institut de radiophysique de Lausanne. La détection, au printemps dernier, de traces de polonium-210, radioactif et toxique, sur des vêtements appartenant à l'ancien leader palestinien. Dose anormale, 30 fois supérieure à la moyenne, qui pourrait donc expliquer les symptômes relevés lors de l'agonie de Yasser Arafat, un effondrement brutal de ses défenses immunitaires, une chute spectaculaire de ses globules blancs, une thèse de l'empoisonnement que va désormais passer au crible la justice française, qui a déjà prévu de demander l'exhumation de la dépouille de Yasser Arafat enterré à Ramallah.
Alors Emmanuel Faux, là c'est très important hein, dans l'affaire, c'est vraiment là l'affaire bascule hein, officiellement du côté judiciaire, et d'ailleurs vous le disiez, vous le confirmiez tout à l'heure, l'instruction est toujours en cours, mais d'après ce que vous dites dans le livre, elle s'apprête à être close par les juges.
Écoutez, le juge Gaveau,
là dans quelques mois. Hein,
elle devait être close d'ailleurs au début de l'année 2014, elle a pris un peu de retard parce que le juge a demandé la réécriture, plus exactement la clarification du rapport des experts pour le rendre plus accessible, plus grand public, et notamment qu'il explique quels sont les effets du polonium-210 et comment les experts ont travaillé. Mais à ce que m'a dit le juge Gaveau lors de notre entretien au mois de septembre, j'ai bien compris que les conclusions qui arrivaient fin de l'année, peut-être début 2015, allait conforter et allait confirmer la thèse française de la mort naturelle et de cette seule thèse.
Alors, maintenant, les raisons pour lesquelles soit Arafat fait cette demande officielle d'ouvrir une information judiciaire, c'est un événement qui se passe à peu près un an avant, un petit peu plus d'un an avant.
Décembre 2011.
Et c'est un journaliste d'Al Jazeera qui est un Américain, un ancien marine, qui s'appelle Clayton
Switcher,
oui, qui va contacter donc la veuve pour demander des objets, des vêtements. Mais pourquoi ? Parce que lui pense à quelque chose de particulier. Expliquez-nous.
Écoutez, il y a une implication très étrange de la chaîne Al Jazeera dans cette affaire, parce qu'effectivement, c'est elle qui est un peu qui a un rôle déclencheur hein, de toute cette phase de première expertise.
Qui va payer d'ailleurs.
Qui
aussi,
va même payer, et c'est très important de souligner, à 50% les expertises menées par l'Institut de radio physique de Lausanne sur les effets et les vêtements.
Alors comment vous l'expliquez alors ?
Vous lisez Clayton Switcher, je dirais, moitié journaliste pur, moitié agent d'une certaine information de la chaîne Qatari Al Jazeera, dont le propriétaire, je le rappelle, c'est important.
C'est l'émir du Qatar.
C'est l'émir du Qatar. Le Qatar, comme on le sait, qui est derrière le financement des frères musulmans, dont est issu le Hamas, actuel mouvement islamique palestinien dans la bande de Gaza. Et le même Switcher qui va révéler quelques années plus tard, ce qu'on avait appelé les Palestinian Papers, c'est-à-dire des documents internes totalement secrets de l'autorité palestinienne, montrant que autour de Mahmoud Abbas, il se préparait des choses pas très catholiques, si je puis dire, ou pas très musulmanes, dans les discussions avec Israël, avec des concessions tout à fait inattendues. Ouais. Donc si vous voulez, bon, un rôle un petit peu, comment dirais-je, discutable ou étrange de Switcher. Il n'en reste pas moins que Switcher convainc soit Arafat de procéder effectivement à ses premières analyses sur les vêtements et sur les effets. Et au vu des résultats, vous aviez raison de le dire, il y a ce documentaire qui va faire du bruit puisqu'il montre de façon visuelle les résultats des travaux des chercheurs suisses. Et soit Arafat, à partir de ce moment-là, est convaincu qu'il faut aller plus loin, d'où l'ouverture, le dépôt de la plainte contre X pour empoisonnement, et le déclenchement de la procédure qui va conduire à l'exhumation seulement en novembre 2012. Vous rendez compte, il y a juste 2 ans, après encore plusieurs mois de tergiversation et de lenteur française et palestinienne.
Alors on va parler dans un instant de cette exhumation, parce que ce n'était pas quelque chose de neutre, ça a été très compliqué à mettre sur pied, mais les Suisses, dont on va parler, là, les scientifiques suisses poussaient à la roue pour dire attention, dépêchez-vous, s'il faut faire des comparaisons, plus le temps passe, moins on pourra mettre en évidence notamment des problèmes de radioactivité. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est que ce journaliste américain va diffuser 2 documentaires sur Al Jazeera avec 2 titres qui sont parlants. Hein. Le premier, c'est Qu'est-ce qui a tué Yasser Arafat? Et le deuxième,
Killing Arafat. Voilà. L'assassinat d'Arafat. Oui, bien sûr. Et le deuxième documentaire va porter sur cette séquence d'exhumation qui a lieu au mois de novembre 2012 à la Moukata, où il va raconter effectivement comment les choses se déroulent, quelles sont les réactions à cette exhumation et les suites judiciaires, même si aujourd'hui on est dans l'attente des conclusions des magistrats français.
Alors ce moment très, très émouvant, très important de novembre 2012, vous le décrivez très longuement, méticuleusement, en détail dans votre livre. On y vient dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
2004, 11 novembre 2004, la mort de Yasser Arafat dans la région parisienne, donc à l'hôpital Percy de Clamart. 29 août 2012, 8 ans après sa mort, l'ouverture donc de cette information judiciaire. Et en novembre 2012, c'est-à-dire très peu de temps après l'ouverture de cette information, il y a ce moment particulier, Emmanuel Faux, des équipes françaises, russes, suisses et palestiniennes, et arabes, on va dire aussi, puisqu'il y a un certain nombre de médecins qui ont connu et traité Arafat dans le passé, sont là, près de ce mausolée qu'on va ouvrir pour prélever des tissus, des os à la dépouille du leader. Il y a beaucoup de gens qui s'y opposaient. Hein,
absolument.
Il faut dire un sacrilège, quoi.
Cette exhumation fait l'objet de débats jusqu'à la dernière minute, puisque même quand les experts suisses viennent en repérage au début du mois de novembre pour voir dans quelles conditions on va pouvoir travailler, est-ce qu'on va exhumer la dépouille de 4 mètres de profondeur pour la mettre dans une mosquée attenante, quelles sont les conditions vraiment de travail et qui va être la possibilité de faire des prélèvements, et bien à ce moment-là l'autorité palestinienne discute encore de l'opportunité ou pas d'aller vers cette exhumation. Il y a l'opposition du neveu de Yasser Arafat, Nasser Al-Kidwa, qui est un diplomate de très haut niveau, vous savez, des Nations Unies, qui a été son ministre des Affaires étrangères dans l'autorité palestinienne,
et
qui a travaillé avec Brahimi, Yagdar Brahimi comme envoyé spécial en Syrie, et qui lui ne veut pas entendre parler de cette exhumation parce que lui considère qu'au fond ce que les Suisses ont montré sur les vêtements et sur les effets avec le premier film d'Al Jazeera nous confirme qu'il y a bien eu empoisonnement et ne cherchez pas plus loin, les Israéliens sont derrière. Alors, donc n'allons pas profaner la dépouille du leader palestinien et du chef historique de la cause palestinienne.
Vous faites bien de le dire parce qu'il y a les arrière-pensées évidemment. La plus commune, c'est ce sont les Israéliens qui ont sinon agi directement, tout au moins commandité cet événement, mais il y a d'autres gens qui disent il y a un complet. Là, on revient sur toutes les bisbilles, on va dire, entre
interne.
Les différents internes au Fatah et aux autres mouvements palestiniens. Certains pensent que d'autres Palestiniens ont tué Arafat pour prendre sa place, quoi.
Voilà.
Pour régler le problème Arafat. Quoi.
Je vous dirais que le Palestinien de la rue est convaincu depuis la première heure et la première minute que ce sont les Israéliens qui sont derrière la mort de leur chef. Mais effectivement, si l'on regarde la réalité politique des choses, quand nous sommes en 2004, certes, Arafat a comme ennemi officiel numéro un l'État hébreu, le gouvernement dirigé par Ariel Sharon, qui à plusieurs reprises a manifesté le désir d'en finir avec Yasser Arafat.
Et qu'il a quasiment assigné à résidence pendant toutes ces années.
Voilà, politiquement, mais aussi éventuellement physiquement. Il a évolué, il a évoqué quelquefois des plans d'élimination. Il a envisagé ça avec l'armée. L'armée lui a dit que c'était trop dangereux, d'ailleurs, et les plans n'ont pas été mis à exécution. Bon. Ouais. Mais il y a effectivement ce qui est moins visible à l'époque, c'est qu'il y a à l'intérieur de l'autorité palestinienne, dans le mouvement du Hamas et chez les opposants de Gaza, une espèce d'impatience, de contestation, de rébellion qui monte contre la longévité de M. Arafat, contre des méthodes de corruption au sein de l'autorité palestinienne, des détournements de l'argent, etc. Et tout ça nourrit des appétits, et notamment d'un certain Mohamed Dahlan, dont je parle assez longuement, et dont je suis.
Et dont Mahmoud Abbas a reparlé il n'y a pas longtemps.
Et dont Mahmoud Abbas a reparlé
au mois de mars de cette année, 2014, en l'accusant quasiment.
En l'accusant d'être impliqué dans la mort du Raïs et en consacrant la moitié d'un discours politique, tenez-vous bien, qui devait être consacré théoriquement à la stratégie politique de l'OLP en mars 2014. Et tout d'un coup, la deuxième moitié du discours de Mahmoud Abbas, c'est parlons du cas Dahlan. Et il faut que nous sachions qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Quel est son rôle? Alors, je vous dis encore d'un mot ce que Mohamed Arslan est, si vous voulez. C'est l'homme de confiance.
L'ancien patron de la sécurité.
L'homme de la sécurité à Gaza, nommé par Arafat dans les années 90. Un homme assez brillant, assez élégant, qu'on a vu même présent dans les délégations, dans les négociations de Camp David, qui est présent à Oslo, enfin qui est là vraiment comme un interlocuteur politique de haut niveau et qui a la confiance totale d'Arafat. Mais qui petit à petit, en devenant une sorte de baron du Fatah à Gaza, va nourrir des ambitions personnelles, va se construire un trésor de guerre et petit à petit va se retourner tel Brutus contre celui qui l'a fait, contre la main qui l'a nourri et va même aller, c'est très important de le souligner, jusqu'à ourdir un complot pour l'élimination d'Arafat à l'été 2004. Nous sommes donc 3 mois avant la mort du Raïs. C'est vous dire à quel point le profil de suspect numéro un de l'intérieur de Mohamed Dahlan, souligné par le discours de Mahmoud Abbas, n'est pas une vue d'esprit.
Alors, on fait une dernière pause dans cette émission et on revient à cette exhumation que vous nous disiez dans quelles circonstances les prélèvements ont fini par être faits. Mais surtout, ce qui est au cœur de votre livre, évidemment, c'est pourquoi des interprétations aussi différentes d'équipes de scientifiques de très très haut niveau, les uns russes, les autres français et les troisièmes suisses.
À partir des mêmes prélèvements.
À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de cette heure du crime consacrée à travers la parution du livre d'Emmanuel Faux, l'affaire Arafat, à toutes ces questions qui se posent encore sous forme d'interrogations de plus en plus pesantes au fur et à mesure que le temps passe. Mort naturelle ou assassinat, et si assassinat, alors empoisonnement, et s'il y a empoisonnement, est-ce que empoisonnement avec une substance radioactive? On revient à cela dans un tout petit instant avec Emmanuel. Faut le temps d'écouter soit Arafat elle-même, la veuve de Yasser Arafat. On est en décembre 2013 et les rapports des experts suisses et des experts français se contredisent totalement. Ça, on va y revenir ensemble avec Emmanuel Faux, puisqu'il nous faisait remarquer tout à l'heure que ce sont des analyses qui ont été faites sur les mêmes prélèvements, donc c'est quand même curieux. Et soit Arafat exprime sur RTL son incompréhension de ces résultats contradictoires.
Moi, il y a un doute, moi, une conviction personnelle qu'il y a quelque chose qui est louche, qui c'est pas normal, qu'il a été peut-être empoisonné, qu'il y avait des choses dans son corps. J'aimerais bien qu'il y ait une confrontation avec les experts français, les experts suisses, très amicales pour dire, parce que c'est du science, pour parler chacun de ses résultats. Mais il y a une déception parce que chacun dit quelque chose, chacun dit une version différente. Pour moi et pour ma fille, il y a une déception. On veut savoir la vérité. Et pour en finir, pour fermer la blessure.
Alors cette vérité, elle tarde à venir, Emmanuel Faux. Est-ce qu'on peut revenir donc à cette exhumation? Vous racontez la scène, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais les prélèvements sont effectués par ces spécialistes sur place, dans la tombe même.
Dans la tombe même, à 4 mètres de profondeur. Alors il y a d'abord un débat sur lequel je passe, mais que je raconte assez longuement, qui peut paraître un tout petit peu surréaliste au cœur de cette nuit de Ramallah, où Françaises et Suisses se demandent s'il faut toucher la dépouille du Raïs, s'il faut travailler à ces prélèvements en dehors de la tombe et des 4 mètres de profondeur ou sur place. Et là, on débat, les Français disent on sera plus à l'aise si on va dans la mosquée attenante. Et ce sont les Suisses qui disent mais vous n'y pensez pas, si jamais les eaux se disloquent, on va voir dans le monde entier qu'on a mené une expertise totalement hasardeuse en disloquant le squelette du symbole de la lutte palestinienne. Finalement, les Palestiniens donnent raison aux Suisses. L'expertise et les prélèvements se font à même la tombe dans les 4 mètres de profondeur. Et ce sont les Palestiniens, avec notamment le procureur palestinien, qui distribue les échantillons aux 3 équipes, françaises, suisses et russes. Alors disons un mot des Russes, parce que
pourquoi les Russes Qui a fait venir les Russes?
Sont les invités de dernière minute, si je puis dire, de l'autorité palestinienne, qui s'est dit, comme il y a peut-être une méfiance à avoir vis-à-vis des conclusions des uns ou des autres, que chacun va chercher à tirer la couverture à lui, ayons une tierce partie qui va jouer un peu les juges de paix et qui va pouvoir trancher. En fait, les Russes ne jouent pas ce rôle-là du tout, parce que d'abord, ils viennent beaucoup trop tard pour comprendre tout le processus qui a été fait. Ils ne sont pas équipés suffisamment pour mener à bien les expertises. Et puis surtout, ce qu'on va voir, c'est que leur rapport est très vite discrédité, puisqu'ils commencent par conclure...
C'est un rapport politique.
C'est un rapport qui est politisé. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, ils concluent effectivement à la possibilité de l'empoisonnement, constatant, parce que je reproduis le schéma dans mon livre, qu'il y a des doses de polonium assez élevées qui sont constatées sur certains os du Raïs. Mais entre-temps, le rapport passe entre les mains du cabinet du ministre Lavrov, du ministre des Affaires étrangères,
Qui
ressort de la lessiveuse politique un mois plus tard, avec la conclusion « c'est bien une mort naturelle, nos amis français ont raison, fermez le banc, il n'y a rien à voir ». Donc si vous voulez, malheureusement, on doit mettre de côté l'expertise russe. Mais entre Français et Suisses, il va y avoir effectivement des conclusions antinomiques, très étonnantes, avec quand même une précision qu'il faut donner, c'est que les Français travaillent sur un nombre d'échantillons assez faible, sur 6 échantillons, alors que les Suisses en ont 16, les Russes en ont davantage encore, et les Français, à part un échantillon, ne détectent pratiquement pas de dose de polonium, reconnaissent qu'il y a quand même du polonium, et c'est là où je dois vous dire, Jacques, je suis encore interdit devant les conclusions et les méthodes des experts français, ils ont un raisonnement totalement binaire. Comme les doses de polonium relevées ne nous permettent pas de dire empoisonnement au polonium, et du fait des symptômes que l'on n'a pas observés sur Arafat, et ben nous allons conclure que c'est pas A, c'est B, c'est donc une mort naturelle. Et là, les Suisses eux-mêmes disent, je ne comprends pas la méthode de travail des
Surtout
Français.
Surtout qu'ils ont fait des prélèvements sous la dépouille d'Arafat, du détail macabre, où ils ont trouvé des doses très importantes dans la terre, parce qu'après on a dit oui, mais il y a du polonium à l'état naturel. Enfin, on va pas entrer là, à cette heure-ci, dans ce débat, mais vous l'évoquez évidemment dans le livre.
Du radon.
Et voilà. Et il faut dire aussi, pour la vérité des choses, que quand on lit attentivement les conclusions des experts suisses, ils ne disent pas Yasser Arafat a été assassiné en lui faisant ingérer du polonium.
Absolument
pas. Ils disent il y a des doses de polonium. C'est une question qui se pose. On ne sait pas s'il en a ingéré, s'il en a eu sur lui, etc. Mais en tout cas,
nos conclusions nous amènent à pouvoir soutenir raisonnablement la thèse de l'empoisonnement. C'est exactement le mot à mot.
Voilà.
Et cette expression, vous voyez, de soutenir raisonnablement la thèse de l'empoisonnement est passée par pertes et profits par les experts français, mais surtout par les juges, puisque le juge Gazot lui-même me dit dans le livre, vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, ils ont mis cette expression pour faire plaisir à leur à ceux qui passent commande. C'est-à-dire à Madame Arafat et à la chaîne Al Jazeera. Je suis désolé, monsieur le juge, mais c'est un peu court.
Pour la France, c'est pas des experts indépendants, puisqu'ils ont été payés pour ça, alors qu'en France, c'est les laboratoires officiels, la gendarmerie qui ont
Alors que paradoxalement, l'Institut de Lausanne n'a de compte à rendre à personne. Et jamais le gouvernement suisse ne va dire aux experts « Où en êtes-vous? Montrez-nous la copie. »
J'ai une dernière question à vous poser, ça tombe bien, il nous reste exactement une minute, Emmanuel Faux. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il y a une réponse à ma question, quel intérêt aurait eu la France de calmer le jeu et de faire passer cette mort pour une mort naturelle, même si les experts n'étaient pas tout à fait dans ce sens-là?
Parce que la France de Jacques Chirac en 2004, il faut se souvenir du contexte de l'époque, n'avait aucune envie de faire d'une affaire Arafat un casus belli diplomatique. Et la raison en est toute simple, je vous la résume en quelques mots. Il y a une nécessité pour Jacques Chirac, malgré l'amitié et l'affection qu'il portait au président Arafat et qu'il prouve en le recevant à Percy pour ses derniers soins, le président Chirac cherche à se rapprocher d'Israël. Il y a eu des tensions très importantes entre Paris et Tel Aviv. Vis-à-vis des Américains, nous sommes en pleine...
La fameuse visite de Jérusalem.
Ariel Sharon qui propose aux Juifs de France de fuir l'antisémitisme de leur pays. Enfin, tout ça crée quand même une électricité assez forte entre les deux pays. Et puis, il y a la guerre en Irak, où les Américains se sont engagés, mais pas la France, vous vous souvenez du discours de Dominique Villepin. Et Jacques Chirac se demande si la France a bien fait d'être à l'écart de cette conflit, alors que les Américains engrangent des résultats. Et puis, il va y avoir, deux mois plus tard, l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais, dont Jacques Chirac est très proche. Or, Jacques Chirac accuse la Syrie, le régime de Bachar, d'être derrière l'assassinat de Rafik Hariri. Et pour cela, il a besoin du soutien américain à l'ONU et d'Israël pour condamner la Syrie. Et donc, il n'est pas question qu'une affaire Arafat ou des doutes qui surgissent à ce moment-là viennent troubler cette stratégie de réconciliation diplomatique de la France.
Emmanuel Faux, merci. Merci infiniment.
Merci à vous
parce
de m'avoir accueilli.
Un dossier absolument passionnant. Je rappelle le titre de ce livre qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel, l'affaire Arafat, avec ce sous-titre « L'étrange mort du leader palestinien ». L'émission est terminée, on retrouve Flavie Flamand dans un instant.